Bonjour à tous. Marie-Noël, le 16 mai, nous a parlé de l'ascension de Jésus et son message nous guidait dans l'absence. De vivre, dans le vivre l'absence. Le 23 mai, Christian nous parlait du don de l'Esprit pour tous. Si vous n'étiez pas là, je vous encourage à les écouter sur notre site. Pour commencer, je voudrais que nous lisions le passage qui résume cela. En acte 1, versets 1 à 12. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur la deuxième partie du verset 8. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Témoins. Dans un article publié sur le site de la commission Foi et Vie de la Conférence Mennonite Mondiale, nous pouvons lire « Le mot « témoin » du mot grec vient du mot grec qui signifie « martyr ». Même si aujourd'hui on utilise ce mot pour désigner ceux qui sont morts parce qu'ils confessaient une foi en Christ, martyr, à l'origine, désignait un témoin. Lorsque nous pensons à la transformation par l'Esprit, nous parlons d'une vie transformée pour l'Évangile, pour qu'elle devienne un instrument pour l'œuvre du royaume de Dieu. Un martyr vit pour son maître, pas pour lui-même ou elle-même, ni même pour l'intérêt d'un groupe. Nous sommes transformés par le Saint-Esprit pour servir Dieu en proclamant l'œuvre de Dieu et la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour sa gloire. Le mot « témoin » au pluriel est cité 52 fois dans la Bible seconde, dont 30 fois dans le Nouveau Testament. Avant d'envoyer ses disciples témoigner, Jésus a mis un préalable que Christian nous a rappelé. Recevoir la puissance du Saint-Esprit. Sans cette puissance indispensable, nous allons dans le mur. On peut être extrêmement doué, exceptionnellement bien formé et jouir d'une très grande expérience. Mais si nous n'avons pas reçu cette puissance en nous, nous ne serons que de piètres témoins et demeurerons bien inefficaces. Nous pouvons avoir suivi les cours des meilleures facultés théologiques de la terre entière, être bardés de diplômes et de doctorats. Mais si nous n'avons suivi ces formations que pour accroître nos connaissances, sans avoir donné notre vie à Christ en se reconnaissant pécheur et de ce fait reçu le Saint-Esprit, tout notre beau savoir ne servira à rien. Certes, les chrétiens ne sont pas les seuls à faire du bien. D'autres personnes peuvent aussi pratiquer le bien, rechercher la paix, avoir de la compassion pour les malheureux. Mais cela n'est pas suffisant. Cependant, quelqu'un peut posséder un niveau intellectuel médiocre, avoir une allocution bafouillante, avoir un physique ingrat. S'il a reçu le Saint-Esprit, il sera un témoin de Jésus-Christ puissant. Revenons à nos disciples et à la suite du verset 8. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Leur témoignage devait commencer en terre inconnue, mais hostile, puisque c'était à Jérusalem. La ville où Christ avait été crucifié. Et c'est là qu'il devait commencer à témoigner afin que les habitants soient les premiers à entendre l'appel à la repentance. Idem pour la Judée avec sa forte population juive. Puis ils doivent continuer par la Samarie qui se trouve au centre de la Palestine, habitée par une population métissée qui est détestée par les juifs, qui n'entretenait aucune relation avec elle. Et enfin, leur témoignage atteindrait les extrêmes du monde connus d'alors. Dans ce cercle croissant, nous avons le plan général des témoins et du cours de l'histoire qui continue encore à ce jour. Christian nous a rappelé dans sa prédication le verset 8 dans son intégralité. Et par la suite, il a axé son message sur le don de l'Esprit pour tous, en concluant. Toutes les entreprises humaines qui recherchent la paix, la justice, le pardon, l'amour, contribuent à poser des signes pour le projet de Dieu, pour les humains et la venue de son règne. Et aujourd'hui, que faisons-nous de cette recommandation de Christ ? Vous serez mes témoins. Quel type de témoins sommes-nous? Sommes-nous témoins le dimanche matin, pendant les 2 heures que nous passons ensemble au culte? En principe, durant ces 2 heures, nous vivons la fraternité. Ou bien alors recherchons-nous à être des témoins chaque jour, du matin au soir, 7 jours sur 7? Recherchons-nous à être témoins en famille, au travail, au club de sport, dans toutes nos relations. Notre témoignage est-il réservé à un cercle restreint de personnes que nous savons bien disposées à nous entendre et dont nous connaissons la tolérance? Ou s'adresse-t-il à toutes les personnes que Dieu met sur notre chemin? Il est vrai qu'en France, dans la plupart des lieux publics, le prosélytisme est interdit. Mais n'est-ce pas là un bon prétexte pour nous contenter du plus que strict minimum? J'ai trouvé cette réflexion sur le site regardprotestant.com qui résume bien mieux que je n'aurais su le faire ce que devrait être notre témoignage. Je lis. Nous avons une histoire puissante à partager avec nos contemporains, puisque nous avons rencontré un homme qui est le seul à faire la différence dans notre vie. Il suffit juste de le connaître personnellement. Lorsque nous avons fait sa connaissance, nous avons le désir de le faire connaître à d'autres, à ceux qui ne le connaissent pas encore. Il ne s'agit pas de le présenter à tort et à travers, mais avec l'aide de son esprit et de la sagesse, nous allons pouvoir savoir comment nous y prendre et saisir les moments opportuns pour partager l'espérance que nous trouvons en lui. Ce qui est intéressant avec cet homme, c'est que chaque jour, il nous donne de quoi témoigner. Il nous donne des occasions pour le faire. Mais savons-nous nous en saisir? Ou bien alors nous défaussons-nous? Les prétextes ne manquent pas. Et notre fausseté peut être un signe que nous avons encore besoin de mieux le connaître nous-mêmes. Puisque si nous le connaissons vraiment, il sera plus facile pour nous de le dire et de le vivre. Cette bonne nouvelle, il s'agit de Jésus-Christ, de sa venue sur terre jusqu'à sa mort et de sa résurrection. Il nous appelle à être des témoins de ce qu'il a fait pour nous, pour que nous puissions avoir la vie par son Esprit Saint. Et notre vie raconte de cette lumière qui brille en nous et de ce sel qui donne goût. Le fruit de nos actes, de nos paroles et de nos pensées manifeste en qui nous sommes enracinés. Toujours dans ce même commentaire, une façon d'être. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, il s'agit de partager notre vécu. Cela passe par les actes de tous les jours, les paroles qui sortent de notre bouche et notre attitude. Toujours l'auteur, elle dit: je suis la première personne à me repentir de ce que mon témoignage n'est pas toujours conforme à ce que je crois. Heureusement que celui qui est au centre, à savoir Jésus-Christ, est toujours prêt à me pardonner dès que je confesse mon manquement et que je reviens à lui. Souvent, nous sommes dans le contre-témoignage sans nous en rendre compte. Combien de fois avons-nous entendu des personnes qui ont été repoussées par le manque d'amour, ou de paix, ou de joie, qui régnaient chez ceux-là même qui auraient dû en être les porteurs et les transmetteurs? Plusieurs fois, Jésus nous affirme qu'il nous donne la paix, la joie, l'amour, le pardon. Nous en sommes des récepteurs. Mais qu'avons-nous fait de ce trésor caché en chacun de nous? Lorsque les gens parlent de nous, est-ce les caractéristiques qui leur viennent en premier en ce qui nous concerne sont la joie, la paix, l'amour? Ou sombrons-nous dans l'ambiance du moment et nous laissons-nous aller très vite et très facilement à la morosité, la tristesse, à la critique, à l'angoisse, bref, à tout ce qui caractérise notre époque. Notre époque. Café et bienveillance. Puissions-nous faire que les strates de la mission populaire, mais qu'il y a d'autres endroits, soient ces lieux de ressourcement où les cœurs peinés peuvent repartir apaisés par le pain, le café, les démarches administratives accomplies, les devoirs faits, mais surtout avec un esprit renouvelé, changé, touché par la grâce qu'ils auront croisée. Ce don qui questionne et interroge par sa bienveillance, sa disponibilité, son écoute, sa présence, n'est-ce pas ce qu'a été la vie de Jésus ? Sa vie jusqu'à la donner ? Il a aimé jusqu'à donner sa vie pour que les gens qu'il aimait, je pense que nous avons encore de la marge, beaucoup de marge. Il a aimé jusqu'à donner sa vie pour les gens qu'il aimait. Je pense que nous avons encore de la marge, beaucoup de marge. Témoigner n'est pas un luxe pour les enfants du Dieu vivant. C'est un ordre. Il semble difficile d'imaginer un soldat qui n'obéit pas aux ordres de son chef. Lorsqu'on dit « attaque », il attaque. Lorsqu'on dit « défend », il défend, m'a dit un jour un général de l'armée. Ne sommes-nous pas des soldats de l'armée du roi des rois ? Il nous a demandé de témoigner autour de nous avant de témoigner à des milliers de kilomètres. Alors, revêtons-nous de toute l'armure pour rendre un témoignage juste, efficace, cohérent. Que notre vie soit une reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Que ce soit notre manière de lui dire merci pour tous les bienfaits qu'il nous accorde chaque jour. L'auteur de cette réflexion a écrit « Souvent, nous sommes dans le contre-témoignage sans nous en rendre compte. Ne sommes-nous pas trop souvent pris dans les tourments de la vie, dans nos inquiétudes, notre travail, notre humanité ? Les personnes que nous côtoyons régulièrement ou occasionnellement et qui n'ont pas la foi devraient pouvoir ressentir sans que nous ayons fait le moindre prosélytisme, la moindre évocation de notre foi, qu'il y a quelque chose de différent en nous. En ce qui me concerne, je ne suis pas convaincu que ce que je reflète va toujours dans ce sens. J'ai remarqué que c'est parfois plus facile avec des personnes que je connais peu qu'avec des proches. J'en demande pardon à notre Dieu et Sauveur. Et c'est une de mes prières qui revient régulièrement quand je fais le bilan de la journée. Un bonjour, un sourire, une parole aimable, de la patience pour réexpliquer si c'est nécessaire, une main tendue pour donner un coup de main à un voisin, les légumes du jardin que nous partageons. Voilà autant de pistes. Et il en existe bien d'autres qui peuvent interpeller les personnes inconnues ou connues, les amis, la famille. Être témoin n'est pas réservé à une élite. Comme je l'ai dit, il faut simplement placer notre confiance en Jésus et cultiver les fruits que l'Esprit Saint a placés en nous. Pour mémoire, relisons Galates 5, les versets 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. dans une de mes méditations matinales, j'ai lu ceci venant de sa parole pour aujourd'hui. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Luc 9, verset 23. Quand Jésus appela des hommes et des femmes à le suivre, il bouleversa leur vie, leurs plans, leurs rêves. Les buts qu'ils poursuivaient dans la vie disparurent du jour au lendemain. À mesure qu'ils vivaient en sa compagnie, ils se rendaient compte toujours davantage qu'ils ne pouvaient plus faire machine arrière, à moins de le quitter définitivement. Suivre Jésus n'était pas une vocation à temps partiel. C'était un engagement total, absolu, à lui obéir jusqu'au bout. Certains ne purent l'accepter et s'éloignèrent de Jésus. La plupart des disciples ne se rendaient pas compte alors jusqu'où cet engagement allait les mener. Si vous aviez dit à Pierre, Jacques ou les autres qu'ils mourraient de mort violente, comme leur maître, ils auraient sûrement pensé que vous exagériez. Leur idéal était plutôt d'être aux côtés de Jésus quand il entrerait enfin dans son royaume et de bénéficier de sa gloire. Mais ils marchaient déjà à l'ombre de la croix, symbole d'une mort humiliante, autant que cruelle et lourde de souffrance. Remarquez la différence entre la croix sur laquelle Jésus monta et la croix qu'il demandait à ses disciples de porter. Jésus y monta une seule fois, mais il demanda à eux, comme à nous, de la porter chaque jour. La croix de Jésus fut enlevée sur le mont Golgotha, près de Jérusalem. Celle que nous devons porter se trouve dans notre maison, au bureau dans lequel nous travaillons, ou la salle de classe où nous enseignons, ou partout ailleurs. Elle se dresse devant nous chaque fois que nous devons témoigner de notre foi, ou prendre une décision qui va nous rendre impopulaires, ou refuser d'aller dans un endroit où Jésus ne souhaiterait pas nous retrouver. John Henry Newman a écrit « Prendre la croix du Christ sur nos épaules ne consiste pas à effectuer une action forte, spectaculaire et unique. Elle consiste plutôt dans la pratique toujours recommencée de petites actions sans grande importance, mais qui nous contrarie ou déplaise à notre nature originelle. Prendre sa croix veut dire que nous ne sommes plus aux commandes de notre vie, mais que nous avons tout abandonné entre ses mains. Pour conclure, nous avons pu entendre dans la réflexion du site Regard Protestant, témoigner n'est pas un luxe pour les enfants du Dieu vivant. C'est un ordre. Et dans la méditation de sa parole pour aujourd'hui, que témoigner pouvait être comparé à porter une croix. Elle se dresse devant nous chaque fois que nous devons témoigner notre foi, ou prendre une décision qui va nous rendre impopulaires, ou refuser d'aller dans un endroit où Jésus ne souhaiterait pas nous retrouver. Mais Christ nous rassure en nous disant en Matthieu 11, versets 29 et 30, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Que le Seigneur puisse nous donner de ne plus craindre et d'être ainsi de fidèles témoins. Amen.